Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. Comment en Bretagne des citoyens luttent depuis 40 ans contre le phénomène des algues vertes ? Algues vertes qui polluent les plages, mais qui ont aussi causé plusieurs accidents mortels. Quelle a été la nature de cette lutte qui est loin d'être terminée dans notre région ? Nous en parlerons dans quelques minutes avec Tudy Carnalégan, le directeur de Bretagne Culture Diversité, enseignant-chercheur en sciences politiques et auteur de livres sur l'écologie en Bretagne. Mais tout d'abord, revenons donc sur ce combat d'une génération déjà, avec des associations environnementales, des élus et des associations citoyennes. C'est un reportage signé Morgane Large de Radio Crèze-Braise, votre radio associative dans le centre-Bretagne et dans le Trégor.
Les 20 premières années, les années 80-90, c'est plutôt des phases institutionnelles, scientifiques et de reconnaissance du problème. Et la suite...
Arnaud Clugery, association Eau et Rivières de Bretagne.
À partir de la fin des années 90, je crois que face au déni du lobby agricole et le déni de leur responsabilité sur la question des nitrates, je pense qu'il n'y a plus que l'idée de rendre visible ça sur l'espace public. Et donc il y a, à mon avis, à ce moment-là, l'idée qu'il faut descendre dans la rue tout en travaillant à l'information. Et là, c'est le travail avec les médias. Pour moi, les premiers rassemblements, si on parle des luttes visibles sur l'espace public, moi, le premier rassemblement auquel j'ai participé, c'est à Binic en 97, je crois, ou 98, il faudra que je vérifie. Mais c'est un rassemblement vraiment sur un site touché par les marées vertes, au nom de l'idée que l'eau potable et l'eau des milieux naturels, c'est une seule et même eau, et que la reconquête de la qualité de cette eau, elle est nécessaire, et l'opinion publique est pris à témoin ce jour-là sur l'espace public. Il y a 4000 à 5000 personnes qui sont rassemblées au nom d'un collectif Eau Pure dans lequel on va trouver Eau et Rivières de Bretagne. Pour moi, c'est le premier vraiment acte fondateur d'une mobilisation sur l'espace public dans la lutte contre les marées vertes. Après les premières mobilisations de la fin des années 90, il y a eu une série de mobilisations pour essayer d'infléchir la trajectoire de l'agriculture industrielle en Bretagne. Donc on a parlé de Binic, on pourrait parler du rassemblement de près de 8000 personnes ou un peu plus peut-être à Pontivy pour une agriculture durable. Et puis en 2003, en fait, lors de l'un des grands rassemblements proposés, organisés par Eau et Rivières et les associations partenaires, à Lamballe, eh bien, il y a la première contre-manifestation du lobby. Et en fait, cette manifestation de Lamballe est la première qui va se passer sous protection policière, avec des tentatives d'obstruction à l'accès au lieu de la manifestation. Ceux qui y étaient s'en souviennent encore. C'est, je pense, pour beaucoup d'écologistes, la première fois qu'ils allaient manifester sous protection policière. Et à partir de ce moment-là, en fait, on voit que le lobby agricole, il a compris qu'il ne doit pas céder l'espace public à l'opinion publique. Et donc, presque systématiquement, on va voir apparaître des contre-manifestations. Et il y a d'autres rendez-vous, donc de la fin des années 2000. On pense à Fouesnant, mais aussi à Plonévé-Porzay, où des contre-manifestations vont systématiquement être organisées par le lobby. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, d'abord, il y a des gens, des sympathisants de la cause de la lutte contre les marées vertes qui vont prendre peur et ne vont plus oser se rendre sur les lieux de manifestation. Ça, c'est un premier élément d'une menace pour leur intégrité physique, même s'il n'y a jamais eu, il faut le dire, il n'y a jamais eu de dérapage. Mais quand même, il y a de l'intimidation derrière ces contre-manifestations. Et puis, il y a un deuxième élément d'analyse qui est fait par Eau et Rivières de Bretagne, c'est qu'à partir du moment où le lobby se saisit de nos manifestations, eh bien, finalement, la communication qui va accompagner nos manifestations, elle va être partagée. C'est-à-dire que nous, on met de l'énergie à créer un événement pour donner une impulsion, et finalement, c'est le lobby qui va en profiter pour passer ces éléments de langage. Et là, à partir de ce moment-là, en tout cas à Eau et Rivières de Bretagne, on va fortement s'interroger sur l'outil mobilisation dans l'espace public et considérer que pendant tout un temps, il faut, enfin en tout cas, on va plus y mettre beaucoup d'énergie. On va repartir plutôt sur une phase institutionnelle et une phase plus juridique et contentieuse, puisque à partir des années 2010, on va réintroduire pas mal d'outils de concertation d'une part, mais aussi de lutte, cette fois-ci plus judiciaire, contre les pouvoirs publics.
Au tout début du mandat, je dirais, on venait de prendre nos fonctions et donc...
Yvette Doré, ancien maire d'Ilion, enregistrée à Saint-Guimond sur la grève à Ilion.
Et elles sont arrivées cette année-là, mais en masse, on les ramassait et un jour, c'était tout propre la veille. Et un matin, le collègue m'appelle, il me dit viens sur la grève, c'était à l'Hermo. Il me dit viens voir, c'est abominable. Il me dit prends tes bottes, hein, parce que moi j'en ai, ça dépasse mes bottes. Je dis c'est pas possible, hier c'était tout propre. Voilà. Donc quand on a vu ça, j'ai dit écoute, on n'y fera rien, nous. Hein. On n'aura pas de moyens d'action. Il faut qu'on bouge et puis il faut qu'on alerte la presse. Et puis, donc du coup, ben, on a fait venir la presse pour voir l'état du problème. Et donc ça a déclenché, bien sûr, tout un processus. Et puis du coup, ben, je me suis investie en me disant ben, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi, hein. Voilà.
On entend les courlis derrière votre voix.
Oui, ben c'est une réserve naturelle. Hein. On a plein d'oiseaux ici. C'est vrai que c'est magnifique quand ils viennent. Ça a commencé là et cette année-là, on a dû avoir, je crois, 15 000 tonnes. Et l'année suivante, on en a eu 20 000. On avait des hauteurs d'un mètre. Et puis ça sentait, ça
d'algues.
Sentait. D'algues, oui. Oui, on ne s'en rend pas compte là maintenant. Hein. Nous, on ramassait partout et tous les jours. Donc c'était un gros chantier, il fallait trouver les sites. Et c'est là que je me suis battue avec l'agglomération en leur expliquant que ce n'était pas dû à la commune d'Ilion et qu'il fallait participer.
Les sites pour stocker les algues vertes ?
Oui, ben oui, pour stocker tout ce qu'on ramassait. C'était terrible. Donc on avait trouvé un site, mais qui était tout près des habitations. C'était plus possible. Les gens avaient pleuraient toute la journée, les larmes aux yeux, la gorge, le nez. Donc il a vite fallu arrêter. Et l'aglo est venu à notre secours, donc avec l'antique qui les a prises. Mais ça a été tout un travail quand même. Hein. Bon, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a eu quand même une grande évolution parce qu'on a moins de nitrates dans l'eau. Hein. C'est vrai, on a avancé. Ici, nos cultivateurs étant concernés, montrés du doigt, ont fait beaucoup d'efforts. Et je pense qu'ici, ils ont peut-être fait plus d'efforts que tout le bassin versant parce qu'ils sont concernés. Mais au-delà d'ici, moi j'ai discuté avec des cultivateurs. Oh, les algues vertes, c'est pas chez nous, c'est pas de notre faute. C'est, vous voyez, l'eau, elle va, elle reste chez eux, elle vient pas ici, quoi. Donc, je pense pas que le monde agricole, partout, se sente concerné. Mais ici, je peux pas leur taper sur le dos parce que je crois qu'on a participé, on a travaillé avec eux, avec des réunions de cultivateurs et. Puis nous, on refusait les extensions de porcherie. On se faisait montrer du doigt.
Est-ce que cette lutte que vous avez affichée assez courageusement, Yvette Doré, elle vous a attiré les suffrages ou est-ce que ça a été le contraire ?
Ça me les a enlevés, oui, c'est sûr. En 2014, oui, je pense que je suis pas repassée parce que j'avais trop parlé, trop mis en avant le problème. Donc non, oui, je pense en avoir fait un peu trop. J'ai même eu mon portail enfoncé. Oui.
Le portail de votre maison ?
Oui. Oui, bon, c'est pas quelconque, je pense, mais bon, on n'a jamais poursuivi, mais non, j'ai eu des lettres anonymes.
Qui disaient quoi ?
Ah ben, qui m'insultaient de prendre des positions comme ça, oui. Donc tout ça, on est passé outre, hein, mais on n'est pas repassé, c'est sûr. Ça, plus d'autres éléments hein, à l'époque, mais...
L'avantage qu'on avait, c'est que sous les yeux, à la Grand-Ville, on avait du matériel, des petites remorques à cochons.
André Olivreau, de l'association Halte au Marais Vert.
Et puis on avait des gens qui savaient faire de l'instrument, de la musique. Bon, par exemple, Erwan Chautard de Trébrivant, qui faisait de la percussion. Bon, il y avait Jean Kergris. Jean Kergris était représentant du commissaire aux étapes du gouvernement.
Voilà. Et vous ?
Je me demande si j'étais pas un curé. Pourquoi un curé ? Parce qu'il faut des personnages de la Révolution française. Le bourgeois, le curé, le prolo.
Et le commissaire d'étable ?
Et le commissaire d'étable, oui. Ouais.
Bouton ! Bouton, bouton, bouton ! Bouton dehors, bouton de Bretagne ! 15 millions de cochons selon la police. 12 millions selon les organisateurs. Ce qui fait beaucoup de sans-papiers. Bouton, ce préfet, demandons-lui avec sa petite pelle en plastique et son seau d'aller ramasser des algues vertes sur les plages. Bouton, tous ensemble, et que ce pays, enfin libéré de la merde, retrouve ses paysages et ses paysans!
Voilà pour ce retour sur cette lutte contre les algues vertes qui dure déjà depuis 40 ans en Bretagne. Pour aller plus loin, nous allons désormais essayer de mieux comprendre les contours de cette lutte. Morgan Large de Radio Crèze-Braise s'est entretenu avec Tudy Carnalegan, qui est directeur de Bretagne Culture Diversité, une association qui facilite l'accès de toutes et de tous aux ressources et aux connaissances sur la Bretagne. Tudy Carnalegan est également enseignant-chercheur en sciences politiques et auteur de livres sur l'écologie en Bretagne.
Tudy Carnalegan, cette lutte contre les algues vertes, elle est quand même assez singulière en Bretagne si on la compare aux autres luttes écologiques ou environnementales.
Oui, en effet, enfin, je pense qu'il y a au moins deux raisons qui font que c'est une lutte assez spécifique. D'une part, par sa géographie, puisque quand on prend plusieurs luttes comme celle contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff ou d'autres, ce sont souvent des luttes très localisées contre des projets concret et défini, alors que les algues vertes, finalement, touchent des dizaines de communes, des dizaines de plages tout au long du littoral de la Bretagne. Donc, il y a une géographie qui est quand même très large. Et temporellement, c'est une lutte quand même assez spécifique, parce que les problèmes liés aux algues vertes, ça fait presque 50 ans qu'ils ont commencé à émerger. Et puis les alertes et les luttes, ça fait une bonne trentaine d'années qu'elles existent. Donc c'est une lutte sur la durée dont on ne voit pas forcément encore aujourd'hui la fin.
D'accord. Donc c'est pour vous en tant que chercheur, c'est une lutte qui n'a pas trouvé de solution aujourd'hui, quoi. Contrairement à d'autres luttes qui ont été des luttes écologistes qui ont été victorieuses, comme Plogoff par exemple, quoi.
Les solutions, je pense qu'on sait ce qu'il faut faire pour résoudre le problème, puisqu'on sait d'où vient le problème. Donc si, en changeant le modèle agricole breton, on pourrait tout à fait améliorer relativement rapidement la situation. Donc les solutions sont là, mais ça implique une volonté politique et sociale forte pour mettre en œuvre les solutions que les scientifiques ont transmises.
Alors, la mobilisation des citoyens et la mobilisation des associations environnementales sur cette lutte spécifique des algues vertes, eh bien, ce ne sont pas les mêmes outils qui ont été utilisés pour lutter contre les algues vertes. Est-ce que c'est aussi spécifique ou c'est assez commun dans les luttes écologistes et environnementales en Bretagne ?
Vous pensez à quoi en particulier?
Bah, par exemple, je pense au théâtre, à ce qu'a pu faire Jean Cargris, qui était de toutes les luttes en Bretagne. Mais c'est vrai que les associations environnementales, par exemple, Eau et Rivière, a fait mettre les gens la tête dans le sable sur une plage à Lorient en 2021. Enfin, ils ont essayé d'avoir des actions assez symboliques. Mais c'est dur de mobiliser sur un endroit, alors que justement, géographiquement, c'est très étendu, et qu'en plus, le problème est global à la Bretagne, finalement.
Là, je pense que le répertoire des buts, les outils qui sont utilisés, effectivement, comme le théâtre ou autre, existent aussi depuis au moins les années 70 dans d'autres luttes similaires. Hein. D'ailleurs, donc Air Gris avait commencé à être connu dans le cadre de la lutte antinucléaire de Plogoff avec son sketch du clown atomique. Eau et Rivière, c'est aussi une association qui existe depuis presque 60 ans et ont mené tout un ensemble de luttes qui sont à la fois des luttes de terrain au service de la qualité de l'eau, mais aussi des luttes juridiques qui réinvestissent avec d'autres acteurs pour résoudre le problème des marées vertes. Donc, ce répertoire d'action, pour utiliser un terme un peu scientifique, ces modalités de lutte existent dans nos luttes, qu'elles soient écologistes ou sociales ou féministes ou autres. C'est pas spécifique.
Alors, la spécificité des algues vertes, c'est qu'il y a eu des morts. L'impact médiatique de cette lutte, dès lors qu'il y a des gens qui meurent d'empoisonnement, d'intoxication à cause d'une pollution, il n'est vraiment pas le même, non ?
Oui, là, c'est quand même une spécificité du problème, en tout cas, des algues vertes. C'est évidemment qu'il y a eu des morts direct et imputable directement à cette question-là. Après, il y a eu d'autres problèmes environnementaux en Bretagne qui ont causé aussi des décès, mais de manière parfois plus indirecte. Je pense à des nombreux cancers qui sont liés aux pesticides ou prendre des années, voire des décennies à provoquer la maladie. Donc, les problèmes environnementaux sont aussi des problèmes de santé. Mais là, sur la question des algues vertes, c'est plus direct, c'est plus rapide.
Oui, l'intoxication, elle est immédiate et les gens meurent là où ils sont intoxiqués. Donc, c'est vrai que c'est assez irréfutable.
C'est une spécificité. Mais pour le coup, c'est étonnant que ça ne provoque pas plus de débats dans les médias ou autres, parce qu'effectivement, il y a des morts et il y en a eu plusieurs.
Les conflits, les contre-manifestations, tout ce genre de choses qu'il y a eu autour de la lutte contre les algues vertes, je pense au match de foot sur une plage en 2011 à la suite de l'histoire des sangliers morts. Enfin, ça aussi, c'est quand même un peu particulier, non ? Tu dis Carnalegen ?
Oui, mais ce genre de mobilisation existe aussi dans d'autres luttes, hein, que ce soit contre des projets, je sais pas, autoroutiers ou de barrages ou de bassines, le nombre de gros projets inutiles provoquent aussi ce genre de mobilisation, y compris conflictuelle, y compris en termes de voisinage, etc. Donc, mais là, ça s'inscrit dans une durée beaucoup plus longue et avec des intérêts économiques et sociaux qui ne sont pas forcément spécifiques à la Bretagne, mais qui sont particulièrement aigus en Bretagne, parce que ça implique aussi un milieu qui est fragilisé dans le domaine de la culture.
Une dernière question, c'est que, vous l'avez dit, c'est une lutte qui est très très longue. On voit que les acteurs de ces luttes, je pense à André-Olive Yevrault, je pense à Yves-Marie Lelay, ce sont bien des personnes un peu emblématiques de cette lutte qui habitent sur des points les plus sensibles, la lieu de grève pour Yves-Marie Lelay, Ilion et la baie de Saint-Brieuc pour André-Olive Rousse, c'est des gens qui vieillissent. Est-ce qu'il y a un renouveau un peu des acteurs autour de ces luttes contre les marées vertes ?
Je pense quand même parce que c'est une lutte qui, par sa durée, mais aussi par certains éléments de sa portée médiatique, je pense notamment à aux émissions et à la bande dessinée portée par Inès Béraud, c'est une lutte qui touche quand même des nouvelles générations, qui, notamment dans le Trégor, implique des jeunes militants écologistes aussi. Donc je pense qu'il y a quand même une transmission de témoins qui s'opère. Après, en termes générationnels, les nouvelles générations sont peut-être moins impliquées à 200% que ne l'étaient des militants d'une autre génération. Ça, c'est vrai qu'il y a, en termes de pratique et en termes d'implication en temps des nouvelles générations, c'est différent de ce qui pouvait se passer dans les années 70-80. Et là, sur le terrain, je ne sais pas ce que ça implique.
Et est-ce que les façons de lutter vont changer, vous pensez? Comment vous voyez évoluer, vous verriez évoluer les modes de lutte écologiste et environnementale?
J'ai l'impression que ce genre de problème lié notamment à la qualité de l'eau ou aux pratiques agricoles, toutes les modalités ont été investies par des acteurs. Par exemple, je pense à Eau et Rivière, qui sont à la fois des acteurs de terrain, mais des acteurs qui osent s'investir dans le domaine juridique. Toute cette palette existe déjà, peut-être en fonction des nouveaux acteurs émergents. Certains vont mettre plus l'accent sur le militantisme festif et joyeux, d'autres sur du militantisme plus dans les tribunaux ou autres. Mais ça dépend beaucoup des personnes, des moyens financiers ou en temps des uns et des autres.
Ça veut dire que le mode de la manifestation va perdurer, selon vous?
Le mode de la manifestation, ça, je ne sais pas. Pour le coup, en tout cas, sur cette lutte-là, il ne s'est pas montré hyper efficace pour l'instant. Ce qui me semble, mais bon, je regarde ça avec un peu de distance, donc c'est facile, mais ce qui me semble avoir porté ses fruits, c'est les luttes un peu plus juridico-politiques qui amène à la mise en place de normes plus fortes, à des contrôles plus forts. Et là, les intérêts socio-économiques sont tellement gigantesques que ça bouge pas très vite, mais ça bouge quand même.
Merci beaucoup, Tudy Kernel-Hegen.
Merci.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.